France Inter. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Grand Bien vous fasse. Nous sommes à vos côtés tous les jours de 10h à 11h en direct sur France Inter. Premier appart, premier boulot sérieux, première relation sexuelle, premier dîner avec parents et beaux-parents, première voiture, premier voyage, premier deuil, premier mariage. À quel moment quittons le monde de la jeunesse pour celui de l'âge adulte? Faut-il passer par ces étapes pour se sentir grande, responsable, autonome? Et si devenir adulte était une longue construction qui ne cesse finalement jamais? Et vous, à quel âge ou dans quelles circonstances avez-vous pris conscience de devenir adulte? On attend vos témoignages au 01 45 24 7000. Vos courriels et notes vocales sur l'application de Radio France et vous pouvez également nous laisser un message sur la page Facebook ou sur WhatsApp. Nous sommes le lundi 7 juillet, vous écoutez France Inter, Grand Bien vous fasse, c'est aussi l'été.
France Inter, Grand Bien vous fasse, Eva Rock.
Pourquoi t'as peur de grandir ?
Oui. J'ai peur que le regard des hommes change sur moi que quand j'étais petite. Parce que, enfin, si tu fais, par exemple, siffler dans la rue, t'es gênée.
Moi, si je me fais siffler, ça ira mal pour ceux qui m'ont sifflé. Hein. Moi, c'est pas le regard des hommes qui changeront. Enfin, c'est surtout le regard, par exemple, de mes parents qui vont plus me considérer comme une petite fille. Le regard de mon petit frère qui va plus me voir comme une petite fille aussi, finalement. C'est vraiment ça qui m'inquiète plus. Ouais, c'est ça.
Extrait d'un documentaire formidable diffusé il y a quelques jours sur France 2, toujours disponible sur France.tv, que je vous recommande grandement, documentaire intitulé « Grandir en France ». Et ces enfants de 10 ans n'ont pas tellement envie de grandir, de devenir adulte. Mais pourquoi est-ce si difficile de devenir adulte? La question n'est pas simple, les réponses sans doute plurielles. Nous allons la poser à nos deux invités du jour. Bonjour Rim Battal.
Bonjour Eva.
Écrivaine, poétesse, autrice d'un livre qui m'a mis un uppercut. C'est pas le titre du livre, hein. Le titre du livre c'est « Je me regarderai dans les yeux ». C'est chez Bayard Édition, mais moi j'ai pris un grand coup en vous lisant.
Désolée.
Non, mais c'est très bien. C'est des livres qui font réfléchir et qui nous bouleversent aussi. Bonjour Mao Drama.
Bonjour Eva.
Humoriste, autrice, romancière, vous avez publié au printemps Que jeunesse se passe, récit très enlevé et hyper drôle, paru aux éditions Robert Laffont. Rim Battal, vous avez 38 ans, Mao Drama 30 ans. Vous avez toutes les deux lu le magazine Jeune et Jolie. Je ne savais même pas que ça existait encore, Mao Drama, Jeune et Jolie pour vous. Vous avez toutes les deux eu une adolescence agitée. C'est un euphémisme, et vous vous interrogez toutes les deux sur ce basculement de l'adolescence à l'âge adulte. Alors ma première question, et c'est sans doute la plus difficile de l'émission, mais à quel moment vous vous êtes sentie adulte, Rim Battal?
Alors c'est venu par étapes en fait, il y a eu plusieurs moments où je me suis sentie devenir adulte et puis quelques années plus tard je me rends compte que pas du tout parce que je suis devenue adulte enfin. Et la toute première fois je pense c'était, je devais avoir, dans les 20 ans et j'étais tombée malade, j'avais eu une angine et avant quand j'étais chez mes parents j'étais tout le temps en train de me morfondre dans mon lit, à pas me lever, à me faire accompagner même pour aller faire pipi. Et en fait là je me suis retrouvée toute seule, étudiante, dans une chambre d'étudiante. Et je me suis prise en charge toute seule. C'est-à-dire, je me suis levée, je me suis fait à manger, je suis allée à la pharmacie acheter du paracétamol. Et là, je me suis dit, waouh, vraiment, là, je m'impressionne, je suis devenue adulte.
C'est-à-dire que ce n'était même pas le passage où vous étiez seule dans une chambre qui vous a fait sentir adulte.
Non,
c'était
même
vraiment
pas.
Le fait, ben, j'ai personne pour m'occuper de moi, en fait.
Exactement.
De et prendre soin de moi, quoi.
De prendre soin de soi, seule, de ne pas être assistée dans ces moments-là, en fait. Et là, je me suis dit vraiment, et je pense que ça vient avec le sens des responsabilités.
Ouais.
Donc là, j'étais responsable de moi-même et j'ai été à la hauteur, selon mes standards de l'époque.
Et oui, parce que ça change, on va en parler, évidemment. Mao Drama, et vous, à quel moment vous avez eu l'impression de vous sentir adulte, si ça vous est déjà arrivé?
Moi, je dirais que ça m'arrive par à-coup. Je pense que je suis une adulte un peu hybride. J'ai des côtés où je suis adulte, genre être à la hauteur des événements ou à la hauteur de ses proches. Et puis d'autres fois, pas du tout, comme une création hybride. Et la meuf qui saute aussi, c'est une création hybride. Mais juste pour rebondir sur Rim, c'est trop marrant parce que quand tu dis j'étais seule dans une chambre et tout, moi ça m'est arrivé un moment, j'étais hyper précaire, j'avais plus de parents et tout. Et au contraire, j'ai réalisé que moi j'étais une enfant. J'étais là, mais zut, il n'y a plus rien. Mais j'ai déménagé d'une chambre de bonne depuis 2 mois.
Waouh.
Et genre, je dois marcher pour aller dans ma cuisine.
Waouh.
Au moins 5 pas. Dans ma salle de bain, qui est genre distincte.
Mais et ça a été important quand même, votre chambre de bonne aussi, dans votre construction d'adulte. Non, parce que là, on le dit en souriant, mais ça a été une étape ou pas pour vous?
Non, c'est juste que je me sentais en sécurité dedans, parce que l'endroit dans lequel je vivais avant, c'était une coloc qui était tenue par un vendeur de sommeil, où il y avait des gens hyper dangereux.
Donc, je dirais vous juste le racontez dans le livre.
Que c'était l'endroit de la résurrection. Ouais. Mais c'est depuis 2 mois que j'étais... C'est un peu adulte d'avoir... Genre une grande, enfin plusieurs pièces.
Une plusieurs pièces, oui. Mais en tout cas, vous avez employé toutes les deux le mot de construction. On sent bien que c'est pas, il n'y a pas un moment fondateur. Ouais. C'est que c'est par étapes, c'est-à-dire que vous avez eu l'impression d'avancer dans ce chemin avec une jeunesse qui passe, comme vous dites, Mao Drama, dans le titre de votre livre, ou qui s'efface, ou comment vous le ressentez?
Non, je dirais que genre elle change de forme. Depuis que j'ai écrit le livre, étonnamment, je suis passée, enfin vraiment étonnamment, parce que je ne m'y attendais pas du tout. À une période là de sobriété que je commence, hyper aidée, un hypnothérapeute, une psy, une psychiatre. Je viens de finir une formation de méditation en pleine conscience. Cette phrase n'aurait jamais pu être dite il y a 3 mois. Et je crois qu'il fallait que j'écrive le livre pour que je passe à autre chose, comme un chapitre, le témoignage est là. Et maintenant, je me dis, bah alors, je peux avoir d'autres envies, c'est pas grave, ça fait pas de moi quelqu'un de moins cool.
Mais parce que vous avez mis sur papier, en fait...
Je pense.
Tout ce qu'il y avait dans votre tête, en fait, qui n'était pas forcément très clair, c'est
ça ? Je voulais le raconter depuis hyper longtemps. Je rêvais même quand j'étais ado d'en faire un film, un long-métrage ou une série. Je ne suis pas sûre maintenant que je vais en faire un. Au moins, ça a été un livre. Et puis, il parle à des gens, je reçois des bons retours, donc c'est cool.
Ouais, mais je comprends pourquoi vous recevez des témoignages. Parce qu'en fait, c'est aussi un témoignage de la jeunesse. Et qu'est-ce qu'on fait de cette jeunesse-là ? Mmh. Et comment on en sort ou pas ? Comment on a envie de garder un pied dedans ? Rimbata, l'écriture aussi, ça a été déterminant pour vous ? Celui-là, d'ouvrage en particulier ?
Oui, tout à fait. En fait, je pense que le fait d'écrire, ça nous permet de réfléchir, de dénouer. Et puis, d'esthétiser, sublimer, nous permet de mettre à distance. Et l'écriture a ça de magique qu'elle peut permettre ça, mais la lecture aussi. Parfois, on n'a pas besoin d'écrire quand on lit d'autres qui arrivent à mettre les mots sur ce que nous, on a ressenti ou traversé, etc. Mais tout de suite, il y a des petites lumières comme ça qui s'allument et toutes les choses s'éclairent d'une lumière nouvelle. Et ça nous... Enfin, c'est des petits raccourcis de la vie, quoi.
Mao Drama, oui.
Et je suis grave d'accord avec Rim. Je dirais que tout ce qu'on peut en retenir de cette jeunesse, c'est d'en faire de la sublimation. C'est un truc que m'a dit la psy. Donc, en gros, tu prends tes peines et tes trucs durs et t'en fais quelque chose de beau. Et c'est ça que l'art a de magnifique. Voilà.
On va revenir là-dessus. Non, on va revenir là-dessus parce que vous avez vécu toutes les deux des étapes et on sent que ça a été extrêmement important pour votre construction d'adulte. On a entendu les craintes de ces enfants à l'idée de grandir. Est-ce que vous avez souvenir, quand vous étiez enfant, si vous aviez ce genre de crainte ou si, au contraire, vous aviez envie d'être grande, d'être avec des adultes, d'avoir des conversations d'adultes, Rim Battal?
Alors moi j'avais vraiment hâte de devenir adulte, j'adorais ça, j'écoutais toujours les conversations des adultes, je jouais comme une enfant avec les enfants, mais j'aimais beaucoup beaucoup la compagnie des adultes et j'avais hâte, vraiment j'idéalisais l'âge adulte. Et puis je suis devenue adulte et c'est un peu moins drôle. Mais...
Et ça ressemblait à quoi cette idéalisation du monde adulte quand vous étiez plus jeune ?
C'était vraiment justement l'autonomie, avoir droit de citer, avoir une voix au chapitre en fait, c'est vraiment avoir des avis, des opinions qui comptent, qui sont écoutées, prises en compte. Parce que quand j'étais petite, enfin, je sais pas, ça dépend peut-être des contextes, des familles, etc. Mais nous, c'était vraiment les enfants, ils n'ont pas le droit d'exprimer leur opinion. L'enfance, c'est vraiment le moment où on écoute. On écoute, on apprend, et puis c'est tout. Et moi, j'avais l'impression d'avoir quand même des intuitions très très fortes sur ce que j'allais devenir, sur ce qu'il fallait faire, sur des décisions à prendre, même sur des choses très complexes de questions familiales, de problématiques qui me dépassaient un peu, mais j'avais l'impression en tout cas d'avoir un avis qui comptait, qui n'était pas du tout pris en compte. Et donc j'avais hâte d'être adulte, de pouvoir aussi sortir, il y avait aussi cette liberté en fait que je...
On va reparler parce que vous étiez au Maroc à ce moment-là, et peut-être que la jeunesse et passer de la jeunesse à l'âge adulte quand on est en France et quand on est au Maroc, c'est peut-être un peu plus complexe, non ? En tout cas différent.
Il y a beaucoup de questions là-dedans, je voudrais juste revenir sur justement le témoignage des enfants, parce que hier j'en discutais avec mes filles et je voulais avoir leur avis aussi, je leur ai dit c'est quoi grandir pour vous. Il y en a une qui me dit, alors c'est être seul et devoir faire ses courses seul, se soigner seul, acheter des habits seul et tout payer soi-même. Je lui dis, ah ouais, tu trouves ça comment ? C'est agréable ? Elle me fait, non, c'est sombre, c'est très sombre.
Et la deuxième, elle vous a répondu quoi ?
Et la deuxième, elle m'a dit, c'est être tout le temps de mauvaise humeur parce qu'on doit payer des factures et de payer des impôts.
Elles sont en régie, on les embrasse.
Oui.
Vous avez eu des réponses très pertinentes, les enfants. Et vous, Mao Drama, vous idéalisiez cette vie d'adulte ou pas du tout?
Non, enfin oui et non. En fait, comme Rim, moi j'avais hyper hâte de sortir, je viens d'une famille assez stricte. Il y avait tellement de règles. Même après au collège, j'étais dans un collège pas mixte, tenu par des bonnes sœurs. Il n'y avait pas le droit de parler à table aussi, c'était hyper sévère. Donc j'avais hyper hâte de prendre ma revanche. Mais moi, ce qui me faisait le plus peur, bon, j'entendais parler des factures et tout, mais c'était vraiment l'idée de résignation. Parce que je sentais que j'avais déjà une vocation d'artiste, qu'importe le médium, ça pouvait être le dessin, être actrice, faire de l'humour. Enfin, je savais pas encore. Enfin, je faisais un peu tout d'ailleurs. Bon, bref. Et ce que je trouvais super dur, c'est que les adultes, ils disaient toujours, bah, après, la vie, quoi. Donc, la vie a fait que non, j'ai pas, par exemple, épousé la personne que je voulais, ou des amis que j'ai dû quitter, ou des trucs que j'ai pas fait. Je trouvais ça super triste et ça, ça me faisait hyper peur.
Oui, je me suis posé la question en vous lisant, Mao Drama. Est-ce qu'au fond, on devient adulte quand une fois que les adultes nous prennent au sérieux, au fond? C'est-à-dire que notre parole, ce que disait Rim, que notre parole, elle a du poids. On nous écoute quand on parle.
Bah, je sais pas vraiment, parce qu'il y avait quelque chose d'ambigu. Là, j'ai raconté genre l'aspect sévère du côté de la famille de ma mère. Du côté de mon père, c'est beaucoup plus anarchique, artiste et tout. Et comme j'ai toujours été une enfant un peu sensible, un peu différente, comme on dit, moi, les adultes me prenaient pour une adulte, franchement. Ouais. Et puis parce que la vie a fait que j'ai dû me prendre en charge aussi très jeune, même à 8-10 ans. Donc du coup, je me sentais quand même entendue par les adultes aussi, puisque prise par eux à leur égal.
D'accord.
Eva Rock. Grand bien vous fasse sur France Inter.
On peut réussir à peu près à caractériser ce qu'est un cerveau d'adulte. Il y a une sorte de phase de progression et de développement du cerveau qui est assez fulgurante à la naissance, qui se ralentit à un moment, puis qui reprend. Et on voit une nette diminution, on va dire, entre l'âge de 25 et 30 ans. Mais ça ne veut pas dire que le cerveau arrête de se développer ou qu'on ne peut plus rien apprendre et tout ça. Mais il y a une sorte de ralentissement qu'on pourrait décider que c'est l'âge adulte. Mais en fait, quand on parle d'adulte, c'est aussi une sorte de construction selon les sociétés. Et même quand on parle d'enfant. Pendant longtemps, les enfants, on s'en foutait un peu. Personne ne prêtait vraiment d'attention aux enfants. Et pendant longtemps, l'âge adulte était beaucoup plus tôt, c'est-à-dire à 12-13 ans, on est en train de bosser. Donc ça dépend, est-ce qu'on parle de l'âge adulte dans le sens biologique ou de l'âge adulte dans le sens social, de comment est-ce qu'on se définit? On va dire aujourd'hui à quelqu'un, bah, t'as 22 ans, t'es un gamin. Ce serait complètement absurde de dire ça il y a 200 ans.
La voix d'Albert Moukébert, psychologue clinicien, docteur en neurosciences. Il répondait aux questions de Louise Aubry pour les bienfaits du podcast Adolescence qui est disponible sur l'application Radio France. Devenir adulte, vaste tâche, nous en parlons ce matin avec nos deux invités, la comédienne Mao Drama et l'autrice Rim Battal. C'est vrai qu'on part de chez ses parents plus tard, on fait des études plus tard, on se marie plus tard, on a des enfants plus tard, il y a un vrai décalage du passage à l'âge adulte. Rim Battal, est-ce que, c'était la question que je vous posais tout à l'heure, mais est-ce que devenir adulte en France en 2025, c'est, vous pensez, différent que de devenir adulte en 2025 au Maroc, là où vous avez vécu toute votre jeunesse?
Alors, je pense que c'est une question de géographie, de culture, mais aussi une question d'époque. Aujourd'hui, au Maroc déjà, il y a un tel respect des aînés, en fait, qui fait que les enfants sont moins considérés, en fait. Les enfants doivent se taire, respecter les adultes, ne pas répondre, ne pas élever la voix, ne pas donner un avis non sollicité, etc. Ce qui est bien et pas bien, mais enfin, parce qu'il faut faire une petite différence entre l'apprentissage et la maturité. Je pense bien que c'est sûr. Un âge où on apprend, où on emmagasine, etc. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas un avis qui est intéressant, qui peut être éclairant même pour les adultes. Enfin, moi, personnellement, depuis que je suis devenue maman et que je peux discuter avec mes filles, j'apprends énormément de choses avec elles. Elles ont un regard qui est hyper intéressant. Parfois, elles m'ouvrent les yeux sur des choses que je n'avais pas forcément remarquées, que je n'avais pas lues, interprétées de la même manière. Et c'est très enrichissant, c'est bienvenu. Et ensuite, c'est une question aussi d'époque, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on grandit plus lentement, mais on met le temps pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on a moins besoin de grandir vite pour aller à l'usine, mais aussi parce que les conditions matérielles de l'accès à l'âge adulte ne sont pas présentes.
Bien sûr.
Les étudiants et étudiantes sont hyper précaires pendant très longtemps. Une fois qu'on a eu un diplôme, cette promesse de diplôme qui soi-disant est censée nous permettre de pouvoir trouver un logement, de pouvoir subvenir à ses besoins, etc., elle s'éloigne de plus en plus. Donc même en en tant que jeune adulte, parfois, on se retrouve à demander de l'aide de ses parents, à demander, à, dans le meilleur des cas, un garant,
oui,
exactement. Quand on doit avoir trois fois, gagner trois fois le loyer pour pouvoir se loger. Enfin, tout devient très, très difficile et on est dans des sociétés qui sont infantilisantes, en fait.
Complètement.
Et là, hier, par exemple, je discutais avec, parce que je faisais des entretiens pour un ouvrage collectif avec des pionniers de l'immigration marocaine qui me racontaient leur vie dans les années 50-60 en France. C'était beaucoup plus facile de trouver du travail, de gagner sa vie, de vivre décemment, de trouver un logement, etc. Quand je leur explique un peu ce qui se passe aujourd'hui, c'est un cauchemar, c'est vraiment...
Mais vous savez, j'ai vu une phrase dans un article, alors pardon, j'ai oublié la source, mais la phrase m'a marquée, il est indiqué « devenir adulte qui peut ». Devient adulte qui peut. Et j'ai trouvé la formule très juste. Dans la précarité économique dans laquelle on est, en fait, on devient adulte quand on peut et pas forcément quand on veut. Vous êtes d'accord avec ça ?
Oui, je suis complètement d'accord. Enfin, vraiment, on n'a qu'à interroger un peu des jeunes entre 20 et 30 ans et on aura cette même réponse, on aura plein d'illustrations, je pense. Ouais.
Maodrama, c'est vrai que votre livre, il parle beaucoup de la fête et on est dans la jeunesse de vos années. Enfin, oui, c'est ça, tous ces moments où la fête vous a construit. Vous racontez, vous avez vécu des premières fois très jeunes, hein, première cuite 12 ans, premier joint 13 ans, club récurrente à 14 ans. Est-ce que c'était une façon de dire tous ces moments ? Est-ce que c'était une façon de dire aux adultes, je fais ce que je veux, ma liberté, c'est ça qui compte ? Ou au fond, il y avait une façon de se rapprocher du monde des adultes aussi par ces petits gestes ?
Bah, je pense que c'était vraiment les deux. Après, moi, quand j'étais ado, on va dire, c'était entre 2007 et 2015. Et c'était un moment particulier dans la culture où il y avait beaucoup une glamourisation des excès. C'était les années bébé brune, rock. Plus t'étais déglingué, plus t'avais de l'intérêt et de l'épaisseur. Forcément, tu grandis avec la série Skins, c'est pas pareil que si tu grandis avec une série sur la sobriété.
Oui.
Donc, et comme moi, je rêvais d'être cool, c'était ma revanche.
Mais c'est vrai, ouais.
Mais ouais, de ouf. Donc, c'est sûr qu'il y avait ça. Et puis, moi, mon père, il était très... très rock, c'était quelque chose aussi qui mettait beaucoup en valeur. Il avait fait les radios libres et tout, c'était mes récits d'enfance. Et c'était un peu un moyen de me rapprocher de lui aussi. Mais c'est vrai qu'il y avait aussi un truc de liberté, que je raconte aussi dans le livre, que quand j'étais petite à 7 ans, j'ai sauté volontairement dans une piscine sans eau.
Ce
qui était
fou
pour un suicide infantile, mais ce qui n'était vraiment pas le cas.
Il est incroyable ce passage, parce que ce terme de suicide infantile, c'est le médecin qui le prononce. Parce que vous sautez, mais alors que vous l'avez vu, que sur le panneau, il ne fallait pas sauter.
Voilà, en fait, je vois que c'est interdit. Et déjà, je pense que je n'en pouvais plus des carcans, puisque j'étais en mode, ah ouais, il n'y a pas le droit de sauter, je ne vois pas en quoi c'est dangereux. Après, j'ai fait un endosto, t'inquiète, j'étais en mode, ah ouais, ouais, c'est un peu
dangereux. Mais ça a été très grave. Vous avez été
blessé gravement. Non, mais plein de choses, c'était très grave dans ma vie. Mais du coup, je crois que... et c'est dans les toutes dernières pages que j'ai écrites au dernier moment avant qu'on envoie à l'imprimeur les trucs, c'est que je disais, il y avait un truc dans la défense qui était ma liberté de casser. Au moins, ça m'appartenait. Parce que beaucoup de choses me faisaient du mal, ça, moi, c'était ma décision. Mais de la même façon que là, moi, j'ai l'impression de recouvrer une nouvelle liberté en prenant un autre chemin de vie.
Ouais.
Et de me dire, parce que maintenant, c'est ma décision.
Oui, mais vous écrivez... Alors, je rappelle, le titre de votre livre, c'est « Que jeunesse se passe » et vous écrivez dans les premières pages « Aujourd'hui, j'ai 30 ans et jeunesse ne passe pas ». On comprend que votre vie est une immense fête. Est-ce que ça vous permet aussi de ne pas quitter ce monde un peu insouciant et ce monde de l'enfance, quelque part ?
Non, franchement, c'est pas relié à l'enfance. C'est plutôt relié à l'idée d'acceptation. Comme j'étais rejetée, ça va faire la miskina, mais comme j'étais rejetée par mes parents, à l'école, ensuite dans mes études supérieures, j'étais trop lookée, trop ronde. La meuf, elle parle trop fort. Plein de choses que si un mec avait les mêmes qualités de moi, on dirait, il est tellement charismatique.
Ouais.
Et là, on est genre, elle est tellement trop cette meuf, trouve-moi, elle prend trop de place. Alors que déjà, être une femme qui prend de la place, ça n'empêche pas d'en donner aux autres. C'est pas parce que t'as de la lumière que t'éteins celle des autres. Et donc... Quand moi, je commence à sortir, et notamment vraiment dans la fête queer, c'était très étonnant pour moi de découvrir des gens qui me disaient « Ah, tu parles fort, tu t'habilles de façon étonnante. Yeah, c'était trop fab.
Ouais. »
Et je me suis dit, entre petits monstres, c'est comme si on se reconnaissait. Donc moi, c'est mon endroit où je me sens hyper bien. C'est comme une... Il y a des gens, pour eux, c'est bien genre d'être au coin du feu avec du tricot. Ben, moi, je me sens très en sécurité au milieu de paillettes sur un dance floor en train de danser avec mes adelfes.
Et adulte. Et adulte dans ces moments-là aussi.
En fait, je définirais même pas ce que c'est.
Ouais.
Juste un endroit de bonheur, de suspension, où le collectif est plus important que l'individualité.
C'est extrêmement important, le collectif, on comprend en le lisant votre livre. On va reparler des amitiés et des amours, parce que évidemment, ça rentre en jeu dans cette construction qui nous amène vers l'âge adulte. Je voudrais qu'on donne la parole à Servane. Bonjour Servane.
Bonjour.
Bonjour, vous êtes professeur de français, vous nous appelez depuis Rouen. Et vous avez posé cette question à vos élèves, de savoir s'ils se sentaient adultes ou pas ?
Alors, c'était pas exactement ça. En gros, c'était un cours où on parlait de Arthur Rimbaud et du fait qu'il avait beaucoup fugué quand il était jeune, etc. Et je leur ai demandé à un moment si eux, ils avaient hâte d'être majeurs. Enfin, ouais. C'est même pas ça, je leur ai dit, et je me rappelle leur avoir dit « Bon, vous, de toute façon, j'imagine, à votre âge, vous avez hâte d'être majeur. » Et franchement, la grande majorité de la classe s'est exclamée tout de suite « Ah non, 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 certainement pas !» Et donc, ça m'a étonnée parce que, comme disait à votre standardiste, moi, je me rappelle que quand j'étais en première, j'avais qu'une hâte, c'était d'être majeure et de quitter la maison et de partir en études. Enfin, vraiment, c'était... Mais tout le monde dans ma classe, on était tous comme ça. Et donc, je leur ai demandé « Mais ah bon, mais pourquoi vous voulez pas être majeure ?» C'est étonnant quand même. Et en fait, il y en a plein qui m'ont dit que ça les angoissait énormément de devenir adultes, que le monde du travail, ça leur apparaissait comme quelque chose d'horrible, où ils seraient tout le temps sous pression, tout le temps en compétition les uns avec les autres. Alors du coup, je leur ai dit, bah vous savez, avant, il y a les études quand même, la période des études, ça peut être super sympa. Et ils m'ont dit, ah oui, mais non, les études, il y a la pression des examens, la pression des notes, c'est horrible. Et en fait, j'ai fini par leur demander, mais... Enfin, vous préférez être lycéen, en fait. Et ils m'ont tous... Enfin, il y en a énormément qui m'ont dit « Ah oui, oui, on est beaucoup mieux. Enfin, on se sent beaucoup plus en sécurité en étant lycéen que majeur en études, quoi. » Et j'ai trouvé ça super triste parce que vraiment... on avait l'impression que l'avenir, c'était un truc...
Oui, c'est ça. Oui, c'est que vous comprenez à travers leurs mots qu'ils ne regardent pas l'avenir d'une très jolie façon, ou en tout cas qu'ils ont du mal à avoir confiance en eux pour la suite.
Et franchement, eux, ils sont nés en 2008, on a 15 ans d'écart. Et bon, 15 ans en soi, c'est pas non plus.
Oui, vous avez raison.
C'est pas comme si j'avais été lycéenne il y a 50 ans, mais clairement, il y avait un fossé, quoi. Et ça m'a laissé très songeuse.
Mais merci beaucoup d'avoir témoigné à l'antenne de France Inter au Standard. Merci infiniment, Servane. Merci. C'est vrai que c'est étonnant de voir la multiplication des mots et d'expressions qui se sont développés autour de cette thématique du passage à l'âge adulte. Alors, le fameux syndrome de Peter Pan, quand on n'a pas du tout envie de grandir, bon, ça, on le connaissait, mais le terme d'adolescence, on n'entendait pas beaucoup jusqu'à présent. L'enfant boomerang, c'est quand vous revenez après, par exemple, un passage à l'étranger pour vos études, et qu'il faut revenir au foyer familial, comment ça se passe. Et j'ai aussi cette expression, alors celle que je comprends sans doute le moins, c'est jeune adulte, parce que je comprends pas ce que c'est qu'un vieil adulte. S'il y a jeune adulte, il y a quelque chose qui m'échappe, mais je trouve que plus sérieusement, en fait, il y a une redéfinition de cette période charnière de la vie. On a l'impression que c'est beaucoup plus flou, que la transition est encore plus complexe qu'auparavant, Rim Battal.
Et puis, il y a les tanguis aussi.
Oui, il y a les tanguis, on va y revenir, vous pensez bien. On a prévu un petit extrait,
évidemment. Oui, alors je trouve ce témoignage de cette enseignante vraiment triste et alarmant, mais parce que c'est aussi notre responsabilité, c'est quel monde on laisse à ces jeunes-là. Aujourd'hui, il y a une angoisse et une anxiété et climatique et politique et sociale qui est tellement grande que ça empêche de se projeter dans un futur qui est désirable, parce qu'on nous dit pas qu'on a de la marge de manœuvre pour le construire aussi, pour contribuer à le faire en fait, alors que l'avenir comme le présent, eh ben, ça nous appartient, le passé appartient à ceux qui l'ont construit avant nous et qu'on peut réparer, on peut avancer, on peut faire ce monde-là à notre image. Là, on est vraiment dans une sorte de société qui est très sclérosée, il y a aussi une sorte de mépris des jeunes par les personnes plus âgées, qui fait que on a envie de leur laisser le moins de pouvoir possible. Et forcément, la conséquence, c'est qu'ils n'ont pas envie de grandir, parce qu'ils n'ont pas envie d'aller dans cet espace-là qui est ce monde qu'on leur décrit.
Maudrama.
Et puis, économiquement, je trouve aussi qu'on les met dans des situations hyper dures.
Complètement.
Parce que là, pour les études, elle parlait de stress, des résultats, mais tu as tellement le stress de manger aussi. Enfin, à Paris, je trouve vraiment que c'est lunaire. Moi, c'est pour ça que j'ai dû être logée dans des conditions hyper dures, parce que si on ne peut pas être une société qui fonctionne si c'est juste les 10% les plus riches qui peuvent s'installer dans les grandes villes ou dans la capitale. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire.
Non, mais c'est extrêmement important et ça renvoie à ce que disait Albert Moukébert aussi. Cette façon qu'on a de retarder l'entrée dans l'âge adulte, elle est aussi la conséquence d'une précarité économique de plus en plus grande.
Mais pour nous les femmes, juste, je trouve qu'il y a un truc bien quand même, c'est cette maternité qui peut être retardée. Je trouve qu'on a un peu plus de chance que nos mamans ou nos grand-mères parce qu'on peut plus se réaliser.
Ouais.
Je me dis, quand à 20 ans, moi j'avais un t-shirt taché et j'hésitais entre me nourrir ou rouler une clope, ma mère, elle était enceinte et elle réfléchissait à où se loger.
Grand bien vous fasse. Eva Rock sur France Inter.
T'as ça qu'on craque le dos ou pas ? Je m'appelle Adrien, j'ai 15 ans. Et j'aide ma mère parce qu'elle est atteinte de la maladie de Parkinson depuis que j'ai 5 ans. Je suis un jeune aidant. Un jeune aidant, c'est déjà une personne de moins de 18 ans qui aide un proche handicapé, que ce soit un handicap moteur ou un handicap mental. Je fais à manger tous les soirs et parfois quelques midis. Ouais, ça fait plus de 10 ans que je suis aidant. Et une bonne partie des 10 ans, je savais même pas que j'étais aidant. C'était normal pour moi. Dès que je suis né, je devais aider. Un jeune aidant, c'est un peu un adulte prématuré. À 10 ans, je savais faire un chèque. Il y a des gens qui, à 10 ans, savent pas faire un chèque. Il y a des gens à 10 ans qui savent pas remplir un papier administratif.
Extrait d'un reportage diffusé dans l'émission En Société sur France 5 où il est question des aidants adultes prématurés, comme le dit ce jeune homme. Pourquoi devenir adulte est si difficile? C'est la question que nous nous posons ce matin en présence de l'autrice Rim Battal et de la comédienne et autrice Mao Drama. Mao, je voudrais revenir sur un passage de votre livre qui est très fort, où vous racontez la relation avec votre père, qui a été diagnostiqué bipolaire, qui a été au bout d'un moment hospitalisé, et arrive un jour où une de vos demi-sœurs vous appelle et elle vous dit qu'il faut absolument que vous occupiez de votre père, et vous écrivait à ce moment-là « Mon enfance s'est arrêtée quand j'ai raccroché. Un boxeur invisible me frappe depuis l'intérieur de mon corps. » Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez été obligée de tout gérer, c'est ça?
Oui, mais c'est pas tellement ça, parce que il y a différentes formes de bipolarité. Celle de mon père, elle est vraiment grave. Donc j'ai dû y faire face, un peu comme le jeune homme qu'on vient d'entendre, ouais. Dès mes 10 ans. Ouvrir au huissier, faire à manger, ouais. Être seule beaucoup et avoir peur des bruits dans l'appartement. Mais c'est pas... bien sûr que la prise en charge, elle fait une fin, mais moi, c'est plutôt que, en gros, quand t'es en phase maniaque et que t'es bipolaire, tu peux vraiment faire des dingueries. Et que, du coup, c'est plutôt que c'était du coup la fin du père et la fin des gens que t'es censé être admiré, puisque il a... Ma belle-mère était à l'hôpital, il l'avait tapé, il avait perdu son taf. Enfin, il y avait tellement de trucs, l'appartement était finalement en vente. Enfin, il y avait des clodos dans l'appart, forcément, il y avait beaucoup, beaucoup de choses à gérer. Et je dirais que c'était plutôt cette mort. Mais moi, ma façon d'être adulte et d'aimer mon père, justement, plus que parfois de la prise en charge, je trouve que c'est surtout continuer le dialogue, l'aimer et lui pardonner.
Ouais, ouais. Lui pardonner, c'était extrêmement important pour vous.
Bah, en fait, ça, c'est justement des décisions, je trouve pas d'adulte, mais de vie que tu fais. Si t'as... Moi aussi, ma mère, elle a beaucoup de défauts. Une fois que tu les as vus, que t'as fait le constat, c'est à toi de voir. Soit tu décides de plus parler à tes parents et tu te construis de l'autre côté. Moi, j'ai déjà vécu sur mes parents plusieurs années, je sais ce que c'est. C'est pas ce que je me souhaite. Si je l'accepte, par contre, j'accepte en choisissant mes distances, mais en étant quand même là, parce que c'est ma décision de vie. Ouais. De pas me séparer de mes parents, ils ont aussi des côtés géniaux. Et je veux pas, non plus m'en séparer et les renier. Ça me rendrait plus malheureuse d'être sans eux que d'être avec eux.
Et alors vous arrivez, ce que je voudrais quand même le préciser, c'est que vous arrivez à nous faire rire, même dans ces moments-là, parce que vous racontez notamment comment vous devez gérer les comptes de votre père, mm-hmm. parce qu'il fait n'importe quoi avec l'argent oui. À un moment donné, et notamment commander 8 dalles en bois Ikea pour une terrasse qu'il
n'a
pas.
De terrasse.
Voilà, qu'il n'a pas.
Et... Non mais c'était fou, il avait loué des locaux pour créer une maison d'édition qui allait être la nouvelle cathédrale de l'édition, mais il n'avait pas de projet d'édition.
Ouais. Je raconte ça parce que j'ai eu l'impression en vous lisant que le rire était vraiment ça. Dans cette histoire-là.
Oui, c'est sûr. Ouais. Mais ça, c'est pas que parce que je suis humoriste, mais parce que de toute façon,
non,
c'est dans la
dans
vie.
La vie en général, oui,
voilà,
oui, tout à fait.
Je vous apprends, ouais. Même dans des terrains en guerre, les ouais. gens, ils continuent de rire. Ouais. Parce que le rire, c'est vraiment un médicament gratuit qui permet de mettre de la distance et de survivre.
Oui, comme l'écriture dont on parlait
absolument,
au début
toujours
de cette conversation.
Toujours la sublimation, c'est une autre forme.
Bien sûr, la sublimation, exactement. Rim Battal, devenir adulte trop tôt, on l'a entendu, peut parfois devenir une sorte d'épreuve. Et cette importance du corps, vous la racontez parfaitement, notamment dans le premier chapitre, que j'ai vraiment pris en pleine face. Hein, voilà. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots de quoi il s'agit et comment ça a bouleversé votre vie? Et comment ce corps, il est venu percuter en fait votre vie d'adulte?
Alors il s'agit, alors je le pitch rapidement le livre, je me regarderai dans les yeux. C'est l'histoire d'une jeune fille qui fume une cigarette à la fenêtre de sa chambre d'ado. Et puis quand ses parents le découvrent, s'ensuit une scène de très grande violence, sa mère la bat violemment. Donc pour se protéger, elle part de chez elle, mais sa mère conditionne son retour par le fait qu'elle doit subir un examen gynécologique pour attester de sa virginité. Alors cette histoire de virginité, l'attestation, enfin le certificat de virginité, oui. C'est un un peu le prétexte pour justement aller creuser sur qu'est-ce qui fait qu'on devient adulte, toutes ces trahisons des adultes autour des jeunes enfants, des ados qui les font finalement grandir. Je fais pas l'apologie des trahisons ou de la non-protection, mais ce sont des accidents de la vie, ouais, qui parfois opèrent des petites brèches dans notre manière de voir les choses et qui permettent de faire entrer une sorte de lumière, de nous questionner sur ce qu'on est, etc. Et donc dans le narratrice, en fait, il y a quand même une petite partie de cette histoire qui est inspirée de quelque chose qui m'est arrivé à moi quand j'étais ado. Et en fait, c'est là où le corps devient concret.
Oui.
En fait, avant ça, on est enfant. Et on a ce corps un peu abstrait qui existe que quand on tombe, on se fait des bleus, on s'ouvre un peu.
C'est le début du désir, mais il n'y a pas, soudain, encore eu de relation sexuelle, etc.
C'est ça, en fait, ouais. Soudain, on a un corps, ouais, qui a un corps de femme en plus. Donc voilà, enfin, là, j'en parle parce que tout à l'heure, vous citiez notre référence commune avec Mao, qui est jeune et jolie. Et donc, mon personnage, ma narratrice, qui a le même prénom et nom que moi, lit cette littérature-là et puis a des désirs, qui commence à un peu éveiller son corps d'une certaine manière, à le transformer de manière très douce finalement et très saine, jusqu'à cet accident que j'appelle accident entre guillemets, qui fait que brutalement l'âge adulte et des réflexions d'adulte débarquent en masse et de manière un peu prématurée.
Oui, parce que l'examen gynécologique en l'occurrence est extrêmement violent, hein, c'est vraiment l'objet de votre premier chapitre, et on sent que ça va la marquer pour le reste de sa vie d'adulte, en fait. Et il y a cette scène où, effectivement, il y a la violence de la mère aussi sur son corps de jeune femme. Et vous écrivez « Je sens le monde s'effondrer irrémédiablement autour de moi. Je regarde la marée très basse de ma vie sur ce sol carrelé qui s'allonge à l'infini, tous les horizons qui s'estompent. Que de mensonges, j'ai pris 10 ans d'un coup. » C'est ça aussi, c'est des étapes qui sont primordiales et qui peuvent être très violentes, mais qui vous font grandir d'une façon incroyable.
Oui, alors, mais franchement, je préfère. Oui,
dans le bon sens du terme, hein,
c'est quand même beaucoup
qui vous font
plus
vieillir,
exactement, oui, qui font plutôt vieillir que, ouais, grandir, parce que parfois, enfin, prendre 10 ans, c'est pas d'un coup quand on en a 17, c'est pas très sain en fait. C'est beaucoup mieux quand on peut grandir et faire toutes ces petites étapes, première fois, faire ses petites erreurs, etc., avec douceur et de prendre le temps de se questionner dessus, avoir l'avis des adultes qui nous accompagnent, etc. Là, c'est quand même un peu, c'est une sorte de chute libre.
Oui.
Et là,
on le perçoit comme ça.
On s'organise, hein, ouais, exactement, on s'organise pour tomber sur ses pattes quand même.
Est-ce que vous nous racontiez en début d'émission, là, on parlait du Maroc, quand vous êtes arrivé en France, est-ce que cet exil, vous avez eu l'impression que c'était aussi une étape dans votre construction?
Ouais. Alors, c'était une étape. Alors, en revanche, là, cette étape-là, quand je suis arrivée en France, donc j'ai changé de pays, plus tout l'administratif à faire, je me suis dit, c'est ça l'âge adulte, mais je ne me suis pas sentie adulte. Je me suis, ouais, sentie vraiment juste complètement balayée par toutes ces, exactement, contraintes, avec énormément de démarches. Enfin, c'était pas quelque chose de désirable. Vraiment, c'était très très difficile, très douloureux, et j'ai mis énormément de temps à me retomber sur mes pattes. Vraiment, je me sentais dans une sorte de tourbillon, etc. Et je voudrais juste très, oui, rapidement revenir sur une chose, parce que tout à l'heure on a un peu évoqué la maternité, oui, apparemment c'est plusieurs auditeurices.
Oui, je peux vous lire un message qui,
oui,
résume assez bien. Vivien qui nous dit « J'ai 32 ans et ces dernières années, j'ai l'impression d'avoir vécu deux grands caps qui m'ont poussé à devenir adulte. D'abord, je suis papa, et le fait d'avoir un petit être qui dépend de moi oblige à mûrir. Le lapsus, mon Dieu. Oh là là, mais ça va pas du tout. Et d'autre part, je n'ai pas d'enfant, je précise. D'autre part, c'est peut-être pour ça. D'autre part, j'ai perdu mes derniers grands-parents et aussitôt l'idée que mes parents étaient les plus vieux de la pyramide fait vieillir. S'occuper de ses enfants et de ses parents, c'est pour moi être adulte. C'est là-dessus que vous vouliez un peu réagir aussi ?
Oui, parce qu'en fait, ma première réponse, c'était je me suis sentie adulte quand je suis tombée malade, ouais, et puis que je me suis prise en charge. Et en effet, c'est une étape, on se prend en charge soi-même, on est responsable de soi. Et en fait, c'est ensuite quand j'ai eu des enfants et que je me suis retrouvée responsable d'autres êtres, en plus d'être responsable de moi-même. Et c'est quelque chose qui fait grandir. Enfin, je ne fais pas l'apologie de l'armement démographique, mais mais réarmement démographique. Mais pour moi, ça a été vraiment une étape déterminante, clé, ouais, complètement.
Raphaël, qui est jeune papa, nous dit « Je me suis vraiment sentie adulte à 35 ans quand j'ai endossé mon rôle de jeune papa avec toutes les responsabilités qui en découlent pour gérer ce petit bébé. » Et Séverine, pareil, « Je me suis sentie adulte à 23 ans lorsque je suis devenue maman et j'ai commencé à m'inquiéter pour quelqu'un d'autre que moi. » Mais au fond, alors Mao, vous n'avez pas d'enfant, mais on a l'impression aussi que cette prise de conscience, cette étape vers l'âge adulte, elle dépend aussi d'une espèce de confiance en soi qu'on développe, plus ou moins.
Oui, je pense que devenir adulte, c'est aussi se dire qu'il n'y a pas de fatalité, soit de choses génétiques qu'on nous aurait données, soit de parcours de vie chaotique. Et c'est un peu, je dirais, savoir s'inventer indépendamment de ça et trouver en soi des ressources qui font qu'on va avoir le courage de ses désirs, que ce soit un mode de vie, une personne, une maison ou un métier.
Ouais.
Et voilà, moi, c'était ça, mon grand départ en voile.
Est-ce que vous avez arrêté de mentir, Mao Drama ? Parce que vous racontez que vous ne cessez de mentir dans votre livre. D'ailleurs, c'est un point commun avec vous, Rimbata, de l'héroïne de votre roman. Son papa ment et elle aussi, elle apprend un peu à mentir.
Son papa lui apprend à mentir.
Elle a encore du mal. Mao Drama, elle invente des vies à tout le monde.
Non, mais qui part toujours d'une réalité. Moi, mon père, il a un côté vraiment mythomane. Donc, il m'a sûrement appris à mentir aussi. Mais chez moi, c'est plutôt pour enjoliver les choses. Genre les gens que j'aimais, je voulais qu'ils soient plus grands que ce qu'ils étaient. Donc ma grand-mère, je trouvais qu'elle était grave classe et elle avait genre des rideaux avec des pompons dorés. Donc dans ma tête, c'était sûr, c'était genre une baronne. Pas du tout, elle était fille d'épicier. Et quand je l'ai découvert à sa mort, j'étais choquée. J'avais cru à mon propre mensonge. Ou c'est pour rendre la vie
c'est
un peu plus belle.
C'est encore pour sublimer, toujours.
Ouais, vraiment. Mais maintenant, du coup, non, je le fais pas. Non, je crois que je le fais quasiment plus. Mais c'est pas vrai. De temps en temps, je suis sûre que je le fais encore de temps en temps.
Oui, parce qu'on regarde un peu un pied dans l'enfance.
Plus belle,
oui. Oui, mais ça, c'est parce que vous êtes comédienne.
Ah oui. Tellement fagnardant.
France Inter.
Pourquoi vous n'invitez plus jamais personne à la maison ? C'était agréable.
Grand bien vous fasse.
Quand on te demande, tu répondras, c'est parce que notre fils nous casse les couilles.
Je peux sortir ce soir, papa ?
Non. Si, d'ailleurs, si.
Eva Rock.
Tanguy, le film d'Étienne Châtillès dont on parlait, Rimbata, tout à l'heure, qui est sorti en 2001 avec Sabine Azéma, André Dussollier et Éric Berger. Donc dans le rôle de Tanguy, 28 ans, qui n'a pas du tout envie de quitter le cocon familial. Rimbata, vous avez deux enfants qui nous ont rejoints dans ce studio et que je salue. Elles sont trop sages. Est-ce que vous imaginez déjà leur départ de la maison et est-ce que vous arrivez à les imaginer adultes ?
Ouh là là là.
Je vous avais prévu que j'allais vous poser une question pas simple.
Alors, elle n'est pas si triste. Elle est assez, la réponse est assez joyeuse parce que c'est quelque chose qui est évoqué par elle déjà depuis quelques années. Et les deux se projettent. La grande se projette comme vivant dans une grande colocation avec ses amis. Elle veut avoir 4 enfants, mais en fait, elle veut me les déposer et puis aller faire la fête avec ses potes. Et la petite, elle veut ni se marier ni avoir d'enfants. Elle veut avoir un grand manoir et avec plein d'animaux et que j'habite avec elle.
Ah, mais vous êtes toujours là, vous avez remarqué, vous êtes toujours le lien, c'est-à-dire
exactement.
Que vous allez être la grand-mère à vous occuper des petits-enfants et de vous occuper des animaux,
Exactement, dans le grand manoir, c'est un peu creepy comme image. Mais
Est-ce que ça vous a marqué ce moment où vous invitez vos parents à dîner? Vous vous souvenez, pas forcément de l'instant, le premier jour où ça s'est produit, mais vous savez ce moment ou chez vous, dans votre appartement, c'est vos parents qui viennent, et parfois avec les beaux-parents.
La question horrible, c'est celle-là, en fait, parce qu'en fait, les premières fois que j'ai reçu mes parents, ils ne sont pas venus dîner, ils sont venus rester plusieurs jours, puisqu'ils habitent au Maroc et qu'ils sont venus me voir, en fait. Ils viennent chez moi, et en fait, dans leur tête, je ne suis pas adulte quand même si je suis là, je suis mariée, j'ai des enfants, etc. Et donc, ma mère, quand elle arrive, mon père va faire les courses, ma mère, elle change les meubles de place, elle fait comme elle a envie, et ça ne correspond pas du tout à ce que moi j'ai envie ou j'aime. Enfin, vraiment, ça change la circulation dans l'appart. Et si je lui fais la remarque, elle me dit... Mais elle commence à pleurer, elle me dit « Mais je suis ta mère, chez toi, c'est chez moi, alors pourquoi je devais partir alors ?»
Elle se remet en position d'adulte face à son enfant.
Mais comme elle sent qu'elle a plus le pouvoir, elle passe par la culpabilisation et le drama.
Et pour revenir justement sur le drama et puis l'image de pardon dont on parlait tout à l'heure, votre personnage dans votre roman « Je me regarderai dans les yeux », elle se fâche avec sa mère, évidemment, après ces coups qu'elle prend notamment, mais enfin, on sent que c'est une rupture vraiment très brutale et qui va durer dans le temps. Et à la fin, on sent qu'il y a qu'elle recommence à se parler, que la relation se tisse. C'est aussi cette image de pardon qui vous paraît extrêmement importante quand on passe à l'âge adulte.
Ouais, alors le pardon n'est pas si simple que ça, en fait. Oui. C'est qu'elle c'est une sorte de chemin. C'est le résultat d'un chemin. C'est pas du jour au lendemain, on se dit « Ok, je vais pardonner, même si mes parents restent comme ils l'ont toujours été. » C'est un effort de part et d'autre. Et tout n'est pas pardonnable, évidemment. Donc je pense que dans certaines familles, des choses sont beaucoup... Enfin, les parents peuvent se rendre coupables de choses beaucoup autrement plus impardonnables. Mais dans mon cas, dans le cas de mon personnage aussi, c'est le fait aussi de devenir mère qui fait se déplacer la mère. Oui. La mère devient mortelle et elle a beaucoup plus d'empathie vis-à-vis de sa fille. C'est comme si vraiment les deux ont finalement le même statut de mère. Et donc elle se parle de mère à mère. Oui. Elle se regarde entre mères. C'est pour ça que la fille arrive à pardonner à sa mère en se disant « Ok, en fait, elle a un corps de femme, de mère, tout comme moi. Je sais pas ce qu'elle a traversé, je sais ce qu'elle a enduré dans sa chair, dans son corps, comment il a été transformé, comment il a été altéré. » Enfin, donc, elle arrive à comprendre la possessivité oui. de sa mère, le fait que sa mère n'arrive pas à couper le cordon, parce que parfois, y a le fait de couper le cordon, c'est pas vraiment juste le fait littéralement de le faire, mais ça dure parfois plusieurs années de part et d'autre, et certaines mères n'arrivent pas à couper le cordon, même quand leurs enfants deviennent grands-parents.
Et le père dans tout ça ?
Et le père dans tout ça ? On dirait la question de Léa Salamé et Dieu dans tout ça.
Moi, je voyais, c'est le père, moi.
Et le père, en fait, alors moi, je n'irais pas jusqu'à tuer le père, mais en fait, je pense qu'il faut destituer le père. Destituer les parents de manière générale aussi, en fait. C'est quand on arrive à les voir en tant qu'être humain, et pas en tant que ces demi-dieux, demi-déesses qui nous ont fait. J'en parle aussi dans un livre que j'ai publié chez le Castor Astral, qui s'appelle L'eau du bain. Oui. Et en fait, c'est le fait de devenir mère qui m'a permis de regarder, moi, mes parents, comme des êtres finis. C'est-à-dire qu'ils sont nés aussi quelque part et qui vont se terminer un jour, qui sont périssables. Et ça, tout de suite, ça induit un regard beaucoup plus tendre, beaucoup plus doux sur ses parents et beaucoup plus indulgent.
Mais au drama, c'est pareil pour vous ? On regarde avec plus d'indulgence
Oui,
nos
le
parents.
Fait qu'ils ont des imperfections, parce que déjà, nous, on ne sait pas ce qu'on va donner en tant que parents. Enfin, toi, tu commences à le voir, mais... Moi aussi, comme le pendule de Schopenhauer, en disant que ça va être le désespoir ou vraiment quelque chose de super. Et je pense que c'est toujours entre les deux, parce que plein de contraintes, soit de vie, soit de caractère, font que tu vas jamais être quelqu'un de parfait, puisque de toute façon, l'homme est imparfait. Disait la Bible. Tu m'as répondu à où est Dieu dans tout ça.
Vous savez, tous les jours, on termine l'émission avec les coups de cœur des invités, c'est-à-dire quelque chose qui nous donne matière à réflexion pour prolonger ce débat qu'on vient d'avoir sur le passage à l'âge adulte. Mao Drama, est-ce que notre conversation vous a suscité une idée de série, de musique, de livre, je ne sais quoi ?
Non, mais en fait, c'est une BD que j'ai dans mon sac, d'une autrice qui commence quand même à avoir pas mal de succès, qui s'appelle Salomé Aloche. Je commence à être fan d'elle, je suis en train d'acheter tous ses albums. Et elle est une adolescente typique, et elle en parle sans phare, et elle est hyper drôle aussi. Donc je conseillerais à tout le monde pour les vacances d'aller prendre des BD de Salomé Aloche.
Eh bien, on vous mettra toutes les références sur la page de l'émission via l'application Radio France. Et vous, Rim Batal ?
Alors là, j'ai un film qui me vient en tête, c'est Française A.
Oui.
Mais sinon, j'ai pensé à un recueil de poésie qui s'appelle « Se coltiner grandir » de Mylène Tournier, et qui
magnifique.
Est paru aux éditions L'Hurlure.
Eh bien, merci beaucoup pour tous ces conseils. Merci pour vos écrits, merci pour votre sourire à toutes les deux. Mao Drama, votre livre publié chez Robert Laffont est intitulé « Que jeunesse se passe ». Rim Batal, votre roman Je me regarderai dans les yeux
quand même.
Voilà, quand même, est édité chez Bayard Édition. Elles sont mes adolescentes à la réalisation, Claire Destacan, Anna Massardier, Jessica Bagic, Noélia Filliol et Elina Garcia à la préparation de l'émission. Et ce matin, la technique, il y avait Anne Lorcochet et Paola Collin.
Rends bien vous fasse un podcast France Inter.